Du Liban à Marseille, il n'y a qu'une seule rive. On rejoint la cité phocéenne à la rencontre de Pierre-Olivier Costa, le directeur du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, connu sous le nom de MUSEM, évoque les orientations de l'établissement et ses projets d'exposition. Pierre-Olivier Costa, bonjour, vous êtes le directeur du MUSEM. Vous venez de présenter la saison qui va s'ouvrir. Ce qui est intéressant dans votre projet, vous dites « le musée est un espace politique ». Dans quel sens vous entendez le mot « politique » ?
On l'entend parce qu'on est un musée particulier, on est un musée de société. On est le seul grand musée national de société, on est le seul grand musée national hors région parisienne, et donc ça nous donne une responsabilité particulière. D'abord, il faut coller au territoire, coller à l'actualité, coller au sujet de société. Et donc, on a un rôle d'être un musée, ce qu'on appelle à hauteur d'homme, c'est-à-dire qu'on va être un musée qui va répondre à des questions du quotidien. Donc fatalement, en s'intéressant à la société et à notre territoire, on est dans la politique au bon sens du terme.
Au bon sens du terme, oui. Donc le MUSEM, il faut le rappeler, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. À quel endroit vous situez l'espace de dialogue entre les civilisations aujourd'hui, dans un moment où on a tendance à se replier compte tenu du contexte ?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que la responsabilité du MUSEM, c'est de maintenir le brassage. C'est-à-dire qu'il y a des liens dans ce bassin méditerranéen. Parfois, on dit l'autre rive de la Méditerranée. Il n'y a qu'une rive en Méditerranée, en fait. C'est une mer fermée. Et ce dialogue, il est constant. Et on le voit dans l'art, dans la culture, dans les échanges commerciaux, qu'il y a toujours eu ces échanges. La Méditerranée est un lieu de brassage. C'est le lieu de la migration par excellence. C'est là où il y a le plus d'échanges. Et nous, il faut montrer que ces échanges, ils ont du bon. Ils ont construit ce que nous sommes. Ils ont construit nos cultures et nos civilisations. Et c'est comme ça qu'on se nourrit. C'est comme ça qu'on s'aère. Et donc, notre rôle ici à Marseille, c'est effectivement de dire, ces lieux de brassage, il faut continuer à le montrer, à montrer qu'il y a des résonances. On parlait tout à l'heure de l'exposition « Lire le ciel », l'astronomie, on aura le Vermeer du Louvre, qui est un chef-d'œuvre du musée du Louvre, mais on montre aussi comment les terres persanes ont influencé aujourd'hui nos connaissances sur l'astronomie. Donc on est dans l'Europe et dans la Méditerranée.
Vous évoquez aussi, bon, c'était la saison précédente, une exposition autour des trois monothéistes qui a tourné au niveau international et apparemment elle s'adaptait en fonction des lieux où elle avait lieu.
Oui, on fait tourner les expos comme on le dit, on le fait pas vraiment comme les autres musées nationaux, c'est pas dans un but de financement ou de commercial, mais d'essayer de faire rayonner ce que nous faisons. Cette exposition Lieux saints partagés était effectivement sur les lieux saints partagés par les trois religions monothéistes et qui a beaucoup circulé et qui ouvrira dans sa dernière version à Rome au mois d'octobre. À chaque fois, on s'adapte au lieu, c'est-à-dire au pays où on est, mais aussi au lieu. Là, ça sera la Villa Médicis, donc il y a un aspect plus contemporain, donc il y aura des artistes contemporains qu'il n'y avait pas forcément dans les autres étapes. On essaye effectivement de ne pas figer ce que nous proposons, mais de s'adapter au lieu où nous sommes.
Est-ce qu'il y avait une adaptation de l'ordre du politico-religieux ou non ?
Non, le fond, qui est vraiment de montrer à quel point il y a des choses en commun dans ces trois religions qu'on ne met jamais en avant, qu'on a plutôt tendance à cacher pour mettre tout ce qui nous sépare au devant. Nous, on a le discours inverse en disant on va remettre ce que tout le monde a en commun et on va le dire. Et ça, c'est vraiment le fond de l'exposition et ça, il ne bouge pas.
Il y a aussi un rapport entre la recherche et la création qui ne parlent pas forcément les mêmes langages. À ce niveau-là, comment ça se situe ? Ça collabore facilement ? Est-ce qu'il faut travailler de façon spécifique entre les chercheurs et les créateurs ?
On est dans des temps différents. Mais on peut les mêler. C'est-à-dire que notre MUSEM Lab, qui est notre centre de recherche, travaille avec des artistes et des créateurs, travaille avec des savants, évidemment avec des chercheurs, qui dialoguent, mais on est sur un temps plus long. C'est-à-dire qu'on essaye de faire étirer ce temps de la recherche qui puisse intégrer plusieurs étapes de création différentes et de créateurs différents. On travaille, par exemple, aujourd'hui, sur les artistes en exil. Qu'est-ce que ça veut dire d'être artiste, qu'on fuit son pays, qu'on se retrouve dans un pays étranger? Comment on crée? Comment on crée différemment? Et là, on a effectivement sur un panel de plusieurs années d'études, de recherches, pour voir comment si ça évolue et comment ça évolue.
Alors depuis votre arrivée, vous avez créé le Conseil des publics. Ça, c'est le rapport à au local où vous associez des associations de Marseille à la programmation avec une idée de les faire venir davantage au musée.
Mais il y a deux choses. C'est que quand je suis arrivé donc il y a 2 ans et demi, la sociologie du MUCEM ressemblait beaucoup à une sociologie d'un musée parisien. Or, on est sur un territoire très différent. Donc j'avais envie de renouer avec la sociologie du territoire et m'adresser à tous. On est un musée national, il fallait que tout le monde se sente concerné par ce musée. Je sais que les Marseillais, la région est fière d'avoir ce musée, mais il n'y allait pas beaucoup. Donc on a décidé de monter quelque chose d'assez original, qui est un conseil des publics, mais plutôt un conseil des non-publics, puisqu'on a réuni 20 personnalités qui représentent tous les publics qui ne viennent pas au MUCEM. Et on leur a dit, pourquoi vous venez pas? Vous nous manquez. C'était le message. Et d'ailleurs, ils sont tous venus au conseil. Il n'y en a pas un qui a dit, on vient pas, mais vous nous intéressez pas. Et depuis, ben, les choses ont évolué. J'ai pris l'exemple de dimanche dernier avec les supporters de l'OM, qui ont venu passer la journée ici, avec qui on travaille aujourd'hui quasiment au quotidien. C'était ces supporters ne venaient pas il y a 2 ans au MUCEM. Aujourd'hui, c'est leur musée. Et on en est très content.
Mais concrètement, les supporters de l'OM, ça se passe comment quand vous dites on travaille au quotidien?
Il y a des échanges. On leur a proposé, d'abord, il y a eu une première étape qui était qu'ils avaient réalisé le plus grand tifo d'Europe le 8 mai pour l'arrivée de la flamme olympique sur le port de Marseille. Ils avaient entouré le MUCEM de ce tifo exceptionnel. Évidemment, on avait travaillé ensemble sur cet événement. Et puis on a fait rentrer ce tifo dans l'exposition permanente Méditerranée. C'est la première fois qu'un tifo de supporters rentre dans une exposition dans un musée national. Et puis on était encore hier avec eux. Et puis il y a des échanges d'équipes. C'est-à-dire maintenant les équipes du musée vont aussi au stade et eux viennent au musée. Et on a encore beaucoup de projets avec eux, comme cette fête du foot qui avait lieu dimanche.
Peut-être un petit mot pour conclure sur les 3 prochaines expositions que vous proposez. Vous parliez de l'exposition sur l'astronomie. On a aussi Clément Cogitor.
Clément Cogitor, qui est un des plus grands artistes contemporains. On a en ce moment Laure Prouveau, son équivalent un peu féminin, mais qui est une grande figure de l'art contemporain français. Clément Cogitor nous propose d'explorer une île qui est apparue et qui a disparu en quelques mois au milieu de la Méditerranée. Et qui a venu bouleverser un peu à la fois les hommes et les politiques. Parce que dès qu'une terre émerge, on a envie d'y planter un drapeau, c'est comme ça, c'est humain. Et donc il y avait une lutte géopolitique autour de cette île. Et puis cette idée de assez poétique de quelle émotion nous procure le fait de voir arriver quelque chose et de la voir si vite disparaître.
Et puis il y a aussi l'exposition Don Quichotte qui bouscule cette fois notre rapport à la réalité.
Totalement. Don Quichotte, c'est un réel à côté. C'est une interrogation sur ce qu'est la vérité, ce qui ne l'est pas. C'est aussi une interrogation sur la vieillesse, sur la folie, sur la santé mentale, qui est vraiment un prisme très fort que le MUCEM a pris. Et on avait envie de renouer avec ce roman que tout le monde connaît, mais que tout le monde n'a pas forcément lu, ou en tout cas des extraits. C'est un long roman de Cervantes. Mais on voulait insister sur la dimension à la fois folie et à la fois rire. L'exposition s'appelle Histoire de fou, histoire d'en rire. C'est le sous-titre de l'exposition. C'est important aussi pour nous qu'on puisse penser qu'en allant voir une exposition sur un chef-d'œuvre de la littérature, on puisse rire au musée.
Merci beaucoup.
Merci.